Vous êtes très nombreux à vous intéresser à l'histoire.
Archives.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Archives. Alors aujourd'hui, on reste en France, mais on s'en va quand même très loin. Et dans le temps aussi, puisque ça nous ramène à 1993 à 1993, pardon. Et donc, comme vous avez compris, pour m'aider à décortiquer les dossiers de cette époque, on accueille Gilles Margeron pour nous parler d'une émission sur la Nouvelle-Calédonie.
La Nouvelle-Calédonie, ancienne colonie française, devenue territoire de la France, et puis petit à petit, après diverses péripéties, l'indépendance pointe son nez, je crois que c'est pour 2017. Donc ça fait énormément de changements là-bas. Et c'est intéressant d'écouter cette émission, donc enregistrée en 93, avec Sandrine Mercier, dont le voyage remontait à 91. Donc il faut vraiment remettre tout ça dans le contexte. Voyage en Nouvelle-Calédonie. Sandrine Mercier est quelqu'un on est très fiers de ça, on lui a donné le virus de la radio, et puis après elle est devenue une des animatrices vedettes de France Inter pendant de longues années sur les voyages. Elle avait une émission comme ça, elle a fondé un canard en plus sur le voyage aussi. Et là, c'était ses débuts, elle revenait d'un voyage autour du monde où elle avait tout largué pour se payer ce voyage fantastique. Et elle témoigne de ce qu'elle a vécu avec son sac à dos, à pied, en stop, vraiment roots, quoi. Hein. C'était une certaine époque. Et elle nous décrit un peu ce pays fantastique qu'est la Nouvelle-Calédonie, et elle nous fait même un petit point de géographie, tout ça, au départ. On va se retrouver sous les cocotiers, au bord du lagon, transparent, magnifique, et bien sûr, on va rencontrer les Kanaks.
2 ans plus tard, donc en 93, Sandrine Mercier nous ramène ça à Radio Sainte-Afrique.
Micro ouvert.
Tous les vendredis à 18h15, soyez notre invité. Téléphone 65 49 29 94.
La plupart des Français ne savent pas où elle se trouve. Ils en ont entendu parler au moment des événements d'Ouvéa. Jean-Marie Tchibaou est venu sur le Larzac et certains ont découvert qu'il y avait des Kanaks et qu'en plus, ils étaient français. Afin de découvrir ces îles du bout du monde, je vous invite au voyage et c'est Sandrine qui nous sert de guide. Attachez vos ceintures, on atterrit à Nouméa, Nouvelle-Calédonie. La porte de l'avion s'ouvre. Première impression, Sandrine.
C'est vrai que quand on arrive en Nouvelle-Calédonie, d'abord, ce qui surprend, c'est on survole complètement le plus grand lagon du monde. Et il y a donc toutes ces couleurs phosphorescentes. On aperçoit les corails, on aperçoit la mer qui se casse sur le corail environnant. Et ça, déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oulala, ça va te réserver de belles surprises. Et quand on arrive à l'aéroport qui s'appelle la Tontouta, c'est à peu près 30 km au nord de Nouméa. Et pour aller donc de la Tontouta à Nouméa, on traverse des plaines complètement verdoyantes, style la Normandie profonde. Alors c'est assez surprenant pour cette partie du monde. Et donc après, on arrive à Nouméa. Alors Nouméa, c'est donc la capitale de la Nouvelle-Calédonie. Mais avant de vous parler vraiment de l'île, j'ai envie de vous faire un petit cours de géographie, mais ce ne sera pas trop sévère.
Absolument, je crois que c'est important parce que les Français ne sont pas tout à fait au courant de tout ça.
Alors c'est vrai que, alors on imagine la Nouvelle-Calédonie, c'est complètement à l'opposé de la France dans le Pacifique. C'est situé au nord-ouest de l'Australie, juste au nord de la Nouvelle-Zélande. Et c'est une île qui est toute en longueur, comme un grand ovale étiré. Ça fait à peu près 400 km de long sur 50 km de large. Et on l'appelle la Grande Terre. Et les gens du coin l'appellent le caillou. Donc si vous m'entendez parler du caillou, soyez pas étonnés, c'est bien de la Nouvelle-Calédonie qu'on parle. Alors il y a donc cette Grande Terre, et la Nouvelle-Calédonie, c'est aussi trois petites îles qui sont à côté de la Grande Terre, qui s'appellent Marais, Lifou et Ouvéa. Alors, pour donner une impression de la population, il y a 140 000 habitants sur cette Grande Terre, dont 40% sont mélanésiens, ou kanak, qui est le terme plus employé. D'ailleurs, kanak, ça veut dire homme en polynésien. Ils ont gardé le terme polynésien, puisqu'il y a beaucoup de polynésiens qui sont venus. Donc 40% de mélanésiens, 30% d'européens, et tout le reste, ce sont des indonésiens, des chinois et des polynésiens qui sont arrivés pour travailler dans l'île.
Voilà, il y a donc un mélange de races assez important.
Alors c'est aussi le pays de l'éternel printemps, c'est comme ça qu'on l'appelle. Les températures moyennes sont de 24 degrés.
On peut rêver.
Mais ça peut monter et avoir des températures très chaudes, justement pendant notre hiver à nous, décembre, janvier, février. Là-bas, c'est les périodes les plus chaudes et là, on atteint des 35 degrés à l'ombre, sous les cocotiers. Alors pour donner d'abord une première impression générale du pays au niveau géographique, on dit que c'est comme, on retrouve les paysages de l'Australie mais sur une petite terre. Donc on retrouve des déserts, des forêts tropicales, des savanes et ça bah, je vous en parlerai beaucoup plus précisément quand on fera le tour de l'île. Alors au niveau de l'histoire, bon, c'est quand même intimement lié à la France. C'est un territoire d'outre-mer depuis 1945, mais avant il s'est passé plein de choses. Alors le premier qu'il a découvert, c'est James Cook, qui est arrivé en 1774, et c'est lui qui lui a donné son nom de Nouvelle-Calédonie. Alors pourquoi ce nom-là ? Eh bien parce que la Calédonie, c'est l'ancien nom de l'Écosse, et quand il est arrivé par le nord de l'île, eh bien il a trouvé que ça ressemblait à l'Écosse. Et c'est vrai, moi je vous parlais des plaines normandes, mais tout au nord, ça a ce paysage plutôt breton de falaises qui tombent dans la mer. D'où le nom Nouvelle-Calédonie. Il venait juste de baptiser la Nouvelle-Zélande. Il avait découvert la Nouvelle-Zélande avant, et il s'est rendu après en Nouvelle-Calédonie. Et alors, là-dessus, il y a La Pérouse qui a exploré les côtes, donc qui était un navigateur français, qui a exploré les côtes en 1788, et il a complètement disparu. Enfin, La Pérouse a disparu, et d'Entrecasteaux est parti pour retrouver l'expédition La Pérouse, et c'est là qu'il retrouve la Grande Terre donc de Nouvelle-Calédonie en 1791. Et après, jusqu'en 1840, il ne va rien se passer. Bon, ils se sont arrêtés sur ces côtes, ils sont repartis, mais il n'y a pas eu d'installation française. Et c'est en 1840 que les missionnaires catholiques et protestants sont arrivés. Et c'est en 1853 que ça a été rattaché au territoire français. C'est donc devenu colonie française. Et après, c'est surtout un travail de missionnaires qui a été établi avec pas mal de batailles quand même avec la population locale, puisque les mœurs n'étaient pas trop compatibles.
Oui, je crois que ça a été assez difficile. Il y a eu quelques massacres, il y a eu des trucs un peu durs quoi, dans la colonisation de la Nouvelle-Calédonie. Et puis la France y a envoyé aussi des bagnards et des gens comme ça, je crois.
Oui, c'est ça. C'est juste un petit peu de temps après, donc à partir de 1871, c'était donc la Commune à Paris. Et donc le gouvernement français a déporté donc, tous ces condamnés de la Commune sur une petite île qui est au sud de la Grande Terre, qui s'appelle l'île des Pins. Et donc, il y a eu des gens célèbres comme Louise Michel. Et ils ont même envoyé 3800 bagnards, à peu près, qui ont peuplé l'île et qui ont fait tout le travail de route, de déforestation et d'aménagement. Et même, donc une fois que la commune a été terminée, ils ont donné quelques terres donc, à ces anciens bagnards pour implanter les colonisateurs. Parce qu'en fait, les Français ne voulaient pas trop aller là-bas. C'était très loin. Personne n'en avait entendu parler, ça paraissait vraiment le bout du monde.
À l'époque, ça devait représenter quelques mois de bateau, sûrement. Ouais.
Voilà, donc pour le point historique et géographique.
Oui, on en sait un petit peu plus, c'est certain. Nouméa, c'est la capitale, et on arrive là, bien sûr, puisque je suppose que c'est l'aéroport principal. Et bon, on en a une image un peu de ville néocoloniale. Pas très grande, assez blanche, je sais pas, oui, j'ai des images un peu comme ça.
C'est vrai, ce qui frappe d'abord, c'est qu'on arrive par les bidonvilles, hein, où les Kanaks ont été amenés pour l'exploitation du nickel, donc ça c'est plutôt dans les montagnes, mais il y a une très très grosse usine qui s'appelle Doumbéa, qui est à l'entrée de Nouméa. Alors ça, c'est un grand site sidérurgique, hein, et on arrive par là, donc ça surprend un peu, et partout les bidonvilles en tôle, où logent les Kanaks. Et après, on s'enfonce dans le centre-ville de Nouméa. Alors, ce qui est particulier, c'est que Nouméa, donc, faut l'imaginer tout au sud de l'île. Et c'est construit sur une petite colline. Au centre, imaginez comme une feuille de marronnier. C'est au centre et il y a huit baies qui entoure la ville. Et à chaque baie correspond, alors il y a des plages, des petites plages, il y a la baie des Citrons, Anzevata. Et sur quelques baies se trouvent des grands hôtels de touristes, principalement des Japonais. Et le centre de Noumé est donc un gros port aussi. Et ce qui surprend quand on arrive, c'est la présence française, bien sûr. Ça ressemble vraiment à ces villes de province, je dirais, type La Seine, Toulon, avec une présence militaire assez forte. On voit des bateaux, des grands bateaux guerriers au port, et aussi beaucoup de bateaux de pêche, juste à côté. Et alors Nouméa, c'est quand même gros, c'est pratiquement 80 000 personnes. Et alors, ce qui est typique quand on arrive, c'est la place centrale qui s'appelle la place des Cocotiers, qui est une grosse place carrée entourée des bâtiments administratifs. Et c'est une place qui est très belle puisqu'elle a tout un tas de flamboyance et ses grands arbres avec des fleurs rouges. Et on voit les Kanaks à partir de 5h de l'après-midi qui jouent à la pétanque avec... Ça, c'est bien sûr les Français qui l'ont importé. Et c'est un jeu qu'ils aiment beaucoup, mais ils le jouent un peu à la façon dont jouent les Français dans le sud de la France.
D'accord. Donc, c'est l'occasion sûrement de parler et de galéjade, et etc. Ça fait partie du folklore local.
Ah oui, tout à fait. Mmh. Et ce qui était drôle, c'est que moi, j'y étais donc l'année dernière à Noël, donc en 91, et donc je suis arrivée pour les fêtes de Noël. Alors c'était très drôle parce que la tradition de Noël donc est perpétuée, mais alors ils dessinent des flocons de neige sur leur vitrine, mais ils n'ont jamais vu de neige, bien sûr, puisque là-bas, 35 degrés. Et puis, il y avait le Père Noël qui est arrivé, habillé avec sa grosse tunique en rouge, mais il devait transpirer comme un fou dessous, quoi.
Et donc Nouméa, c'est une ville blanche avec des bidonvilles autour. On a vu ça, ça fait ville un peu néocoloniale, effectivement. Tu es resté un certain temps. Comment tu tes premiers contacts, comment ça s'est passé?
Alors, d'abord, la Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas du tout un coin touristique. Donc, il y a très peu d'hébergements.
Sauf pour les Japonais, tu disais.
Voilà, les Japonais vont Clemed, ça coûte très cher. Il existe juste une auberge de jeunesse qui se trouve un peu sur les hauteurs de Nouméa. Et qui est très, très bien aménagée. Il y a une grande cuisine collective, on dort par quatre par chambre, elle est complètement rénovée. Et il y a même des barbecues, des grandes tables dehors, sous des parasols, pour profiter du temps. Donc c'est agréable.
C'est donc le premier endroit où on peut débarquer si on n'a pas beaucoup d'argent, quoi.
Et ce qui est marrant, c'est que dans cette auberge de jeunesse, ce qu'on rencontre d'abord et avant tout, ce sont des Français, puisque Nouméa fait rêver pas mal de Français, mais surtout pour travailler. Alors on rencontre toute une panoplie de jeunes qui ont un BEP ou un bac en France, qui ne veulent pas travailler et qui sont venus là-bas pour essayer de mettre à profit leur petites connaissances, parce que c'est un pays où effectivement, comme le développement n'est pas très grand, on peut encore se lancer et on peut avoir une bonne rémunération, puisque en Nouvelle-Calédonie, le prix, imaginez la vie, est pratiquement deux fois plus cher qu'en France. Donc, ils gagnent des salaires en conséquence. Un bon maçon fera 10 000 à 12 000 francs par mois. Donc, ça leur permet de mettre un peu d'argent de côté pour, après, voyager ou rentrer chez eux avec un petit pécule, quoi.
C'est un des symboles qu'on rencontre, un peu des cartes postales, enfin, si on peut appeler ça une carte postale, en France. On allait à Nouméa pour se faire un peu d'argent, quoi.
Mais c'est vrai que c'est facile parce qu'il y a beaucoup de choses à construire. Et c'était, contrairement à Tahiti, donc qui était aussi un territoire d'outre-mer, ça a été basé tout sur l'industrialisation. Donc, il y avait de la place pour les Français pour travailler.
Il y a des richesses locales qui sont importantes.
Qui sont importantes à exploiter.
Notamment, on en parlera tout à l'heure, de le nickel. Mais il y a autre chose aussi, non?
Il y a du cobalt, il y a du plomb. Ah, ils ont une terre très riche.
D'accord. Et cependant, bon, c'est un petit paradis, Nouméa, paraît-il. On verra ça tout de suite après avec Sandrine.
L'histoire d'une petite île, je m'en vais vous raconter. La nature n'était pas hostile et l'homme n'avait jamais mis les pieds que cette nature était belle, comme au temps du paradis, avant le péché originel, le travail et les soucis, des tortues dormaient à l'ombre des cocotiers, dans le ciel, oiseaux y chantaient. Et sur les flancs des montagnes fleuries, l'eau vive ruisselait. Puis un jour, sur cette petite île, l'homme a débarqué avec son esprit mercantile, a commencé à tout saccager.
Graham O'Reilly chantait l'île de la Réunion, mais c'est plutôt en Nouvelle-Calédonie qu'on vous emmène. On va faire le tour de l'île avec Sandrine. Alors, tu es partie par l'ouest, je crois.
Hein ? Ouais, alors Nouméa, c'est donc tout au sud. On va remonter l'île par la côte ouest pour la redescendre par la côte est et revenir par le sud. La boucle est bouclée.
C'est alors, pas très grand, de toute façon.
Non, 400 km de long sur 50 km de large. Et alors, j'ai décidé de partir toute seule et en stop. Parce qu'il faut préciser d'abord, il n'y a pas de train. Et les bus, bon, il y en a très très peu. Et ils ne vont pas partout. Et moi, je pensais que le stop, c'était la meilleure façon de rentrer en contact avec les gens et puis de me faire un peu de frayeur aussi. Alors... Je suis donc partie avec mon sac à dos et mon sac de couchage. Et donc, j'ai fait du stop. Alors, ça marche très vite, tout de suite. Il n'y a pas beaucoup de voitures, mais la première qui passe, elle vous emmène.
C'est la bonne. Et la première, c'était des Européens ou des Kanaks ?
Non, c'était des Kanaks qui quittaient Nouméa et qui remontaient dans un de leurs villages. Donc, en remontant la côte ouest... Alors, d'abord, ce qui surprend, c'est donc toutes ces collines verdoyantes. Et on voit donc à l'est la mer, à l'ouest la mer, pardon, et à l'est, on voit toute l'arête. Il y a une grande arête montagneuse qui partage l'île du nord au sud. Et donc, tout de suite, on voit cette montagne complètement esquintée avec des paliers de couleur ocre rouge. Et là, les Kanaks, tout de suite, ils vous expliquent, parce qu'ils aiment bien parler de leur pays, ils vous expliquent que c'est donc le nickel qu'on est en train d'exploiter. Ils ont les téléphériques les plus grands du monde pour drainer ces nickels, et ils ont la quatrième réserve mondiale de nickel. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. Et c'est vrai que c'est d'abord ce qui a attiré les Français. Et alors on passe donc devant des petits villages miniers, qui ont été construits donc il y a pratiquement maintenant 70 ans, et où très peu de Kanaks vivent, puisque bon, les Kanaks ont quand même la réputation d'être pas trop virulents au travail, un peu paresseux, un peu feignants. Alors les Français, quand ils sont arrivés, ils ont fait appel à de la main d'œuvre étrangère, d'où le mélange de populations, puisqu'il y a tout un tas de gens qui arrivent de l'Asie du Sud-Est, hein, des Javanais, des Indonésiens, des Chinois, et des Indiens même. Et c'est donc eux en priorité qui ont été amenés pour travailler dans ces mines. Et il y a des villages miniers, comme on peut en voir dans le nord de la France, où c'était, ça fonctionnait un peu à la Michelin, quoi. Dans ce village, il y avait tout pour subvenir aux besoins des ouvriers. Et c'était donc la famille de Lafleur qui possède les plus grandes mines de nickel de la Nouvelle-Calédonie. Alors on traverse tout ça, et autre chose qui surprend l'œil du voyageur, ce sont les gros charolais, les grosses vaches blanches bien de chez nous, parce que donc c'est toute la terre des Caldoches, c'est donc des grandes savanes, des grandes prairies étendues où paître les vaches. Et c'est donc un élevage complètement extensif qui a été au départ amené justement pour nourrir les bagnards, puisqu'il fallait leur donner de la viande, eux ils voulaient pas satisfaire des noix de coco locales. Donc ils ont développé cet élevage-là, et petit à petit, maintenant, c'est un élevage qui s'exporte très bien vers l'Australie, vers l'Asie et vers la Nouvelle-Zélande. Alors là, on retrouve des sortes de gentleman farmers qui se baladent ou à cheval ou à 4x4, avec un fusil pour chasser aussi, puisque c'est plein de cerfs. C'est une viande qui est très utilisée là-bas. Et une de leurs spécialités, c'est le saucisson de serre. Et donc, c'est vrai qu'on se croit, on a l'impression de se croire en dans les nord de l'Australie ou dans les Far West américains, avec ces sortes de cow-boys avec des chapeaux et bien, bien franchouillards quand même, avec un accent bien de chez eux. Et les caldoches ont un langage qu'ils ont un peu développé avec quelques expressions bien, bien locales.
Et le côté côte, alors, est-ce que ça ressemble cocotier, plage de sable blond et eau à 28 degrés ?
Alors, de ce côté-là, c'est tout à fait ça. Par exemple, la première nuit où j'ai dormi, donc je suis remontée jusqu'à Bouraille. À Bouraille, il y a une très grande formation géologique qui tombe dans la mer, qui est assez impressionnante. Et juste derrière, il y a la plage de Poé, qui fait 15 km de long, de plage de sable blanc, avec le lagon juste devant. Alors, le lagon, ça peut faire rêver comme ça, mais pour se baigner, il faut savoir que c'est pas trop, trop pratique, parce que c'est plein de corail, il y a très, très peu d'eau. Et alors donc, vous vous faites plutôt mal qu'autre chose. Et c'est juste bien pour se balader, ou alors avec un tuba et un masque. Là, on peut voir des choses fantastiques. C'est un des lagons les plus poissonneux du monde. C'est là où on peut trouver les poissons les plus jolis. On trouve...
Les requins aussi.
Et c'est des petits, ils appellent ça des requins de lagon, hein. c'est pas grave. Hein. Ils sont de taille moyenne.
Tu me rassures.
Ils sont complètement intégrés. Par contre, on voit des choses, on voit des serpents d'eau qui sont, c'est des grands serpents noirs à rayures orange. Alors c'est très beau, mais c'est pas, ça vous pique, vous crevez pas avec ça, mais ça peut vous faire quand même des petites douleurs. Il faut se méfier. Mais donc c'est vrai que c'est une très belle plage, l'eau très chaude, et moi ça me frappait parce que j'avais déjà très chaud, parce qu'en marchant, en faisant du stop, je transpirais, et quand j'avais envie de m'arrêter pour prendre l'air, je me dis allez, je vais piquer une petite tête, mais même pas, l'eau elle doit faire 40 degrés, et ça refroidit pas du tout, parce qu'il y a tellement peu d'eau avec la chaleur que...
Oui, donc ça c'est un aspect, l'autre côté de la carte postale, qui n'est pas toujours évident. Et donc tu dormais sur les plages aussi, tu étais parti pour te faire des frayeurs, comme tu disais tout à l'heure, donc est-ce que tu t'en es fait? Oui, voilà.
Je dormais par exemple la première nuit donc, sur cette plage de Poé, j'avais dormi sous un très grand banyan, c'est des arbres qu'on trouve sur cette côte, c'est d'immenses arbres avec des grosses racines qui remontent le long du tronc et qui retombent faire près des feuilles, et ça a des envergures de... 15 mètres, enfin c'est très très gros. J'avais dormi sous un banyan pour me protéger, je sais pas. Et en fait, je m'endormais avec le soleil vers 7 heures et je me levais avec le soleil vers 5 heures. Et c'est vrai que pendant la nuit, il y avait quelques chiens errants qui étaient venus troubler mon sommeil. Et puis aussi beaucoup beaucoup de moustiques. Alors ça, la nuit, il faut se mettre plein de citronnelles de partout et se recouvrir totalement la tête pour essayer d'être épargné. Mais il n'y a aucun problème. D'abord, il n'y a pas d'animaux vénéneux. Il n'y a pas d'araignées, il n'y a pas de serpents qui peuvent vous faire passer la main gauche. Donc, c'est une nature très, très peu hostile et ça favorise ce genre de déplacement.
Ce qui est de pire, c'est l'être humain, donc, là-bas. Plutôt que les animaux. Et de ce côté-là, est-ce que tu as eu des problèmes? Tu as des gens qui t'ont embêté lors de ton voyage?
C'est malheureux à dire, mais j'ai aucune galère à raconter, rien de méchant.
Mais tant mieux.
On m'avait prévenu que c'était pas très bien de le faire, étant donné qu'on peut rencontrer des canaques. Et bon, bah, les canaques, quand ils arrivent le week-end, ils donnent un peu sur la bibine et les gens qui en boivent sont jamais trop...
Pas plus que dans les environs de certains villages.
Trop pacifiques, hein, ouais, y a la tendance violente. Et c'est vrai que quand ils se mettent à boire, ils peuvent devenir assez violents. Mais bon, j'essayais de ne pas grimper avec eux en voiture ou quand je les voyais picoler sous un cocotier, pas trop m'approcher. Quoi.
Mais sinon, sympa, bon contact, ils t'ont invité ou des choses comme ça?
Très, très bon contact. C'est-à-dire, comme j'étais toute seule et que je marchais beaucoup quand il n'y avait pas de voiture ou quand ils me prenaient, ils me demandaient toujours ce que je faisais et moi, je leur racontais que je me baladais. Et ils me donnaient toujours des lieux où je pouvais venir coucher avec, pas avec eux, mais c'est-à-dire, c'est des sortes d'habitations... en feuilles de palmier qui tressent, et c'est une sorte de hutte, hein, c'est pas très, très élaboré, mais c'est ce qu'il faut pour le coin. Et ils ont souvent des abris à côté des villages, donc c'était en cas de pluie la nuit, parce que j'étais pendant une période humide, chaude, humide, donc souvent la nuit il pleuvait un peu, et c'était, alors je dormais sur les plages ou à côté, mais ils me disaient, mais il n'y a pas de problème, vous pouvez venir là, s'il pleut, vous venez là, et puis ils m'apportaient toujours des trucs à manger, on discutait, ils m'offraient à boire.
Alors justement, qu'est-ce qu'on mange là-bas en dehors? Des fruits fantastiques, sûrement, non?
Alors, il y a des fruits, bien sûr, des ananas, des oranges, des bananes. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Enfin, c'est pas très très élaboré, mais c'est le fruit exotique. Sinon, leur spécialité, c'est le bougna. Alors, rien à voir avec l'auvergnat français. C'est du porc qui découpe, du porc ou du bœuf, qu'ils mettent dans des feuilles de palme. Ils creusent des gros trous dans la terre. Ils font un feu, ils mettent des grosses pierres chaudes dessus, et une fois que le feu, donc, ça prend toute la journée, hein, il commence le matin, et le soir, donc quand les pierres sont bien chaudes, ils enveloppent donc ces viandes avec du taro, avec des bananes, et ça fait des sortes de petits pochons qui posent sur les pierres chaudes, et donc ça cuit à l'étouffée, et vous avez vraiment la saveur du légume qui a imprégné la viande, et il n'y a pas de gras, y a tout ça, c'est très très bon. Et c'est souvent l'occasion de... C'est un plat traditionnel, de moins en moins pratiqué, parce que le four électrique a quand même des avantages. Alors ça, c'est surtout pour les canards qui vivent encore d'une façon très traditionnelle.
Alors au niveau des bruits, des sons, de la musique, qu'est-ce qu'on entend ? Il y a beaucoup d'oiseaux, il y a des insectes, il y a un peu, décris-nous l'ambiance sonore.
En fait, il n'y a pas beaucoup d'insectes et j'ai pu le voir, j'ai pu faire la comparaison par la suite. C'est-à-dire que quand j'étais en Asie du Sud-Est, dans les forêts, c'est beaucoup plus bruyant, alors que là, c'est des forêts très calmes. Mais ils ont des oiseaux, ils ont toute une faune très spécifique qu'on trouve qu'en Nouvelle-Calédonie. Et donc, il y a pas mal de botanistes qui viennent étudier tout ça. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont des kakous, c'est des gros oiseaux, c'est comme des kiwis, quoi, c'est des gros oiseaux qui ne volent pas, qu'on peut trouver dans les forêts. Ils ont des cerfs, qu'on rencontre tout le temps. Sinon, ils ont aussi c'est pas les kakous, c'est le kakou. C'est pas le kagou, c'est le kakou. C'est des sortes de lézards, de gros lézards qui ont des ventouses aux pieds et qui apparaissent à la nuit tombée, qui apparaissent partout à l'intérieur des maisons, sur les sommets. Alors moi, au début, j'étais complètement affolée. Je me disais, mais vous les laissez comme ça dans votre maison, là, on va dormir là avec ça. Ah, mais oui, ça, c'est nos petits amis, et c'est eux qui mangent les moustiques, c'est eux qui mangent les insectes, donc c'est au contraire... Alors, ça fait, donc, le bruit, il vient... Enfin, le nom vient du bruit, puisqu'ils font un peu « kakou ». Kakou, donc le nom c'est kakou, et ça résonne tout le temps dans les maisons, et c'est vrai qu'après c'était un petit compagnon dont j'aimais bien la compagnie.
D'accord, et la musique ?
Alors la musique, beaucoup de reggae, donc les Mélanésiens sont des peuples endogènes, hein, c'est-à-dire ils viennent bien de l'Australie, enfin c'est un peu le même type de race, je pense qu'on peut parler de race, mais bon.
D'origine.
D'origine. Et ils sont complètement fanatiques de reggae. C'est un combat qui leur colle bien à la peau, puisque eux aussi cherchent à retrouver leurs racines et cherchent à vivre d'une façon séparée du blanc et n'acceptent pas les valeurs telles que l'argent, le travail, le stress et compagnie. Donc le reggae, ça les fait bien planer.
Problems you just have to face. Can't run. If you just put your hand in mine, we're gonna leave all our troubles behind. We're gonna walk and don't look back.
Don't look back.
Gonna walk and don't look back.
Don't look back.
Now if you're something that can't be done.
Tell her what to do, bro.
Don't hear your faith in love, remembering what become.
Don't look back.
Don't look back.
On était sur l'ouest de la Grande Terre, on se dirige vers le nord de l'île, donc de la Nouvelle-Calédonie. Et qu'est-ce qui se passe? Ça change vraiment de paysage, de choses comme ça
Alors petit à petit, on va quitter les savanes et les niaoulis. Ce sont les arbres qu'on trouve partout dans cette partie. Ça donne l'impression de vieils arbres morts, complètement dénudés. Mais ce sont les seuls arbres qui tiennent bien. Et comme les agriculteurs brûlent régulièrement leurs terres, il y a donc toute cette paille jaune. Et vous voyez tous ces arbres noirs sur le tronc. Et ils sont morts en fait, mais ils continuent de vivre dans cet état-là. Alors les niaoulis, c'est donc toute cette partie. On voit aussi beaucoup d'hibiscus, de flamboyants et des bougainvilliers. Donc c'est vrai que ça a une bonne odeur.
Oui, ça sent bon et en plus c'est très beau. Il y a des belles fleurs et tout ça. C'est vraiment le côté paradisiaque là aussi.
Et vers le nord, donc on va se diriger ce qui ressemblait à l'Écosse. On a des paysages bretons avec des forêts beaucoup plus vertes et des falaises qui tombent dans la mer. Et donc là, on va traverser l'île pour arriver sur Balade, qui se trouve donc sur la côte est de l'île. Et là, il y a toute une... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est donc le côté est est plutôt pour les Caldoches, donc les anciens, les Français qui sont là depuis des générations. Et toute cette partie a été donnée donc à tous ces colonisateurs. Et ils ont relégué les Kanaks dans des réserves qui sont ou sur les montagnes ou sur la côte est. Donc, on va quitter le domaine des Blancs pour retrouver le domaine Kanak.
Oui, vraiment, ça se délimite un peu comme ça. L'île est quasiment coupée en deux.
Grossièrement, oui. Ouais. Mm-hmm. Et c'est ce qui, justement, a permis de maintenir une culture très forte kanak. Quand on lit des livres sociologiques ou ethnologiques, c'est vrai que les kanaks ont une notion de leur vie, de leur société, qui est très propre et qui est très séparée des Blancs, et qu'ils ne se sont pas mélangés, justement, parce que les Français les avaient relégués dans des réserves. Et c'est vrai que maintenant, les ethnologues disent que c'est ce qui les a sauvés. Il n'y a pas eu d'intégration, ils ont été suffisamment forts pour perpétuer leur tradition au sein de villages bien distincts. Donc, en quittant la côte est, en quittant la côte ouest et en arrivant sur l'autre côte, on va retrouver des villages kanaks sur un mode de fonctionnement très, très typique. Donc, avec des tribus. Et des tribus avec des petites habitations en moitié bambou, moitié feuilles de pandanus. C'est des feuilles très résistantes qui tissent et qui font les toits pour faire les nattes, pour faire les parois des murs. Et alors, c'est des petits villages qui sont très, très propres. C'est toujours bien tondu devant, avec plein de fleurs. Et c'est des petites entités tout le long de la route qui descend toute la côte. Alors c'est une route qui est fantastique puisqu'elle est complètement au bord de l'eau et donc côté mer, il y a des petites criques de plage de sable blanc avec des petits cailloux de temps en temps, et de côté terre, il y a la montagne dont je vous ai parlé, qui traverse l'île de nord au sud, qui tombe vraiment à pic dans la mer. Et là, vous avez une végétation de type tropical puisque cette côte est balayée sans arrêt par les alizés qui arrivent du Pacifique. Et donc là, il pleut en moyenne, je crois que c'est 2 mètres d'eau par an. L'angle de l'autre côté, c'est qu'un mètre. C'est vraiment une végétation complètement différente. Et il y a même des grosses cascades qui arrivent des montagnes, qui coulent et qui viennent se jeter dans la mer. Et vous avez cette petite route qui rejoint le nord du sud de l'île. Et pratiquement sur la moitié du parcours, ce n'est pas une route goudronnée, c'est des pistes. Et alors là, ça... Ils ont, chaque tribu doit avoir une petite voiture, et c'est des sortes de, je ne sais même pas le nom en français, pick-up truck, c'est des trucks, vous avez
des plateaux.
Voilà, juste un conducteur avec une place passager, et à l'arrière, c'est un plateau où ils transportent leurs marchandises, les gosses, toute la famille à l'arrière. Donc c'est essentiellement à l'arrière des pick-up qu'on voyage en Nouvelle-Calédonie, cheveux au vent et... C'est la meilleure façon.
D'accord. Et là, tu es bien accueilli, ça se passe bien. Le fait de voir une Française qui débarque en stop dans leur village, comment ça se passe?
Aucune réaction de méchanceté ou de racisme ou quoi que ce soit. Bien au contraire, alors c'est des gens très, très, très chaleureux, très accueillants. Et quand je marchais, il y avait toujours les enfants qui venaient, qui m'emmenaient voir des coins jolis qui n'étaient inscrits nulle part et qui allaient m'amener voir leur famille. Et là, on buvait et puis... Il parle très bien français de par l'éducation, bien sûr. Et le français a été très, très vite adopté puisque chaque tribu, dans chaque vallée, dans chaque tribu, ils avaient un langage différent. Et en fait, la colonisation a permis de mettre le français comme langue officielle. Et en fait, depuis que les Français se sont jamais aussi bien parlés, puisqu'ils ont une langue commune maintenant. Et donc, ils le parlent très bien, ils sont très, très chaleureux. Alors, bon, les enfants, souvent, ils se baladent tout nus partout. Les femmes portent ce qu'on appelle ces robes missions qu'ont apportées les missionnaires, puisque quand ils étaient arrivés, elles aussi étaient presque nues, et c'était pas trop décent pour la religion catholique. Alors, elles portent ces robes qu'on voit régulièrement dans les anciennes colonies françaises. C'est donc des grandes robes fleuries avec un petit col montant blanc et puis des petits galons sur les poignets qui leur recouvrent le mollet. Et les hommes, eux, sont plutôt avec un short et un t-shirt, mais enfin, leurs garde-robes ne sont pas très... très rempli. Hein. Mmh. Et ils ont souvent des fichus colorés qui s'attachent dans les cheveux. Ils ont souvent les cheveux longs, à la mode un peu jamaïcaine, avec des dreadlocks et des choses comme ça.
Et donc, tu vas dans ces villages, ils te reçoivent, tu passes des soirées avec eux, musique, etc. Comment ça se passe? Raconte un peu.
Alors, c'est vrai que la musique est présente. Ça fait penser un peu aux Noirs américains. C'est vrai qu'ils ont, ces gros magnétos Sony avec lesquels ils mettent ça au milieu du village. Et puis, les gens discutent, dansent un peu, surtout boivent pas mal de bière, ce qui pose pas mal de problèmes aux femmes locales. Surtout que moi, j'y étais donc pendant le Nouvel An après. Et j'avais été dans une petite mission où j'avais rencontré une Française qui travaillait. Et à la veille, juste après le Nouvel An, ils n'ont jamais eu autant de cas de femmes battues, d'incidents, de batailles, des choses comme
ça. Un peu de violence, fait de l'alcool.
Du fait de l'alcool. Et surtout que leur fête à eux, ça a commencé à Noël, et les hommes sont rentrés une semaine après. Je veux dire, la fête, ça durait pendant une semaine. Et... ils sont rentrés dans un état un peu amoché, quoi. Mmh. Mais sinon, c'est une sympathie très, très, très conviviale. C'est-à-dire que toutes les personnes que je croisais me disaient bonjour en français. Venez près de moi, vous voulez boire un coup, venez, on a des fruits. Le temps passait comme ça, doucement.
Donc tu avais eu raison de prendre des risques. C'est une des meilleures façons de voyager en Nouvelle-Calédonie, quoi.
Oui, puisqu'il n'arrive rien. Sinon, il y a un petit truc qui est chouette, c'est que quand on prend cette route, hein, par endroit, il n'y a pas de pont, il faut traverser des petits bras de mer, et il y a encore des vieux bacs. Alors, vous arrivez, il y a un gars sur une plateforme avec un moteur qui fait un bruit d'enfer, qui dégage une fumée à faire pâlir tous les écologistes. Et puis, ils font la liaison entre les deux côtes, hein, et vous en trouvez deux, trois sur le long de la côte. Donc c'est vraiment très, très, très loin, très, très beau.
D'accord, on est vraiment à l'autre bout du monde. Et on va quitter un tout petit peu le paradis pour aller voir les Caldoches, parce qu'il y a les Kanaks, il y a les Mélanésiens, mais il y a les Caldoches. Donc l'équivalent des pieds noirs ou des béquets dans les Antilles françaises.
Alors les Caldoches se trouvent donc sur la côte... ouest.
Mais il n'y en a pas du tout à l'est.
Ah non,
pas
non.
du tout.
Non. C'est très compartimenté. Il y a l'élevage de bétail, le nickel sur la côte ouest. Et sur la côte est, c'est une agriculture locale pratiquement autarcique, où les gens développent le manioc, le taro, le cocotier, vivent de ça, et de temps en temps vont dans les villes principales pour s'approvisionner en riz, en huile, en sucre. Et voilà.
Et donc, on ne les rencontre pas sur la côte est, il n'y a pas de mélange, il y a quand même une communauté métisse, une communauté kanak et les Caldoches. En gros, il y a un peu ces trois...
C'est vrai qu'ils vivent d'une façon complètement séparée. Et je vais peut-être me répéter, mais c'est ce qui a protégé les Kanaks. Mmh. Et tous les groupements asiatiques qui sont arrivés ont reproduit aussi un peu leur mode. Les Chinois, ils sont partout, c'est eux qui prennent les épiceries, c'est un peu partout aussi. Et les Javanais ont beaucoup travaillé dans les mines et se sont plus mélangés avec les Français, puisque justement les Français étaient là. puisque c'était les chefs. Et contrairement à Tahiti, où il y a eu un mélange très fort entre les colonisateurs et la population locale, en Nouvelle-Calédonie, ça ne s'est pas du tout fait. Vous verrez très très peu de métis.
Alors, je vais poser ma question autrement. Quel a été ton regard par rapport à ces différentes communautés? Comment tu as vu les Caldoches, toi?
C'est vrai que d'un côté, c'est les méchants colonisateurs qui sont venus utiliser...
Tu l'as ressenti comme ça, toi?
Pas tout à fait quand même, parce que c'est vrai que c'est des gens qui sont arrivés là-bas il y a plus de 100 ans. C'était des bagnards, on leur a dit d'aller là-bas. Au départ, ils ne voulaient pas trop y aller non plus. C'est quand même le gouvernement français qui les a...
déportés.
Qui les a déportés, qui sont là-bas. Et eux, bon, bah maintenant, donc les trois quarts de la terre a été donnée à des Français. Et bon, bah maintenant, on leur parle de réappropriation des terres par les Kanaks et de donner un peu de leurs terres pour faire vivre les Kanaks. Ils comprennent un peu, mais c'est vrai qu'eux, ils estiment avoir mis de leur sueur. Pour développer tout ce qui n'était pas exploitable. C'est vrai que les Kanaks ne sont pas des forcenés. Eux, ils estiment avoir apporté de la sueur de leur front pour développer tout ça. Et que maintenant, bon ben, ils estiment que ça leur appartient. Alors, je pense qu'il y a un juste milieu à voir. Mais les Caldoches...
Mais tu les as rencontrés? Tu es allé chez eux? Tu es allé manger avec eux? Tu as été reçu dans des familles Caldoches?
Dans un, donc, qui m'avait emmené voir ses vaches. Et après, on avait été dans sa ferme avec sa femme et discuté. Bon, ils ont un accent très gros. Ils parlent un peu comme ça, c'est vrai. Et bah eux, c'est leur terre, ils s'y sentent très très bien. Et la famille que j'avais rencontrée était prête à faire quelques concessions au niveau des terres. Et eux, ils voulaient vraiment rester là-bas. C'est vrai que c'est un petit paradis. En France, ils n'ont rien à voir, ils n'ont plus rien à voir avec la France. Et en plus, dans tous ces mélanges, il y a aussi ce qu'ils appellent les oreilles, qui sont encore une autre catégorie, qui sont les métropolitains, c'est-à-dire les gens qui, comme nous, qui venons là-bas juste pour travailler 2-3 ans. Il y en a pas mal.
L'administration, quoi, en gros.
L'administration, les professeurs, puisqu'ils ne trouvent pas assez de canaques pour être enseignants. Et puis, les métiers liés à l'informatique, au service. Et ça, c'est les oreilles, liées à nos grandes oreilles roses, je ne sais pas. Et par exemple, les Caldoches ne peuvent pas blairer les gens de la métropole comme nous, quoi.
Ça fait donc 3-4 communautés qui ne se mélangent pas et qui ne font pas grand-chose ensemble, quoi.
Non, mais qui en fait vivent d'une façon assez autonome, sans trop s'embêter, sur des terres très différentes. Et c'est... Donc pas de brassage, pas de mixage. Mmh.
Les accords d'Ouvéa remontent à quelques années. Maintenant, est-ce que tu as senti qu'il y avait des efforts quand même de compréhension et de choses comme ça? Puisqu'ils vont en espace de 10 ans, je crois, il faut absolument que les Kanaks acquièrent une certaine autonomie, etc. Alors, est-ce que tu l'as senti, ça?
C'est-à-dire que c'est dans beaucoup de discussions, surtout quand on rencontre les gens stop, ils nous disent qu'en ce moment, ça a été chaud, mais il ne faut pas garder cette image-là. Maintenant, les choses se sont pas mal arrangées. Les accords de Matignon ont permis justement d'une réappropriation des terres. Donc en ce moment, il y a beaucoup de discussions entre les Caldoches et les Kanaks pour récupérer certaines terres, les réattribuer et les replanter, puisque les replanter, refaire vivre un autre type d'agriculture. Et ils veulent, enfin, moi ce que j'ai senti, c'est qu'ils ont envie de vivre ensemble sur la même terre. Je veux dire, les Kanaks n'ont pas envie de virer tous les Caldoches. Ce qu'ils estiment, c'est que c'est assez grand. C'est vrai que l'île est grande et qu'il y a sûrement de quoi faire pour tout le monde. Mais il faut faire un peu de... Voilà.
Et la fleur a donné une partie, je crois, des mines de nickel.
Des mines, oui. Qu'il a redistribuées et qui appartiennent au territoire. Donc, ils sont gérés par le territoire d'outre-mer. Une partie seulement, il en a encore gardé en propriété propre.
Bien sûr, on s'en doute. Le nickel, on en entend beaucoup parler, c'est vraiment la manne.
Ouais, c'était la manne, et maintenant avec les problèmes de récession économique et même sidérurgique, on le voit même en France, là-bas maintenant je crois que c'est plus que la moitié des usines qui sont utilisées, et ça pose un gros problème de chômage. C'est 20% de chômage quand même en Nouvelle-Calédonie. Et justement, les Caldoches comme les Kanaks voient d'un mauvais œil tous les Français qui viennent travailler là-bas, puisque c'est les Français qui viennent leur voler leur pain.
Notre vie tous ceux qui, comme nous, cherchent encore le paradis. Brisant d'écume, grands oiseaux fous, cette île est belle, tu me l'as dit. Notre île, ton île, mon île. Découvrirons-nous la sagesse, le lent oubli du temps qui passe. La vie et la mort sur ta langue, sur tes lèvres, au bout de tes doigts. Je sais, mon cœur, la route est longue, la fleur, l'extase, je te les dois.
Ont inspiré beaucoup de personnes, des chanteurs et des chanteuses. C'était Jeanne Moreau, elle, c'était plutôt les îles grecques, apparemment. Mais là, on est avec Sandrine, on est en Nouvelle-Calédonie, on se dirige vers le sud de l'île. Là, on fait le tour de... On était un peu dans l'est, on est revenu faire un tour vers le Nickel, mais petit paradis avec les villages Kanak, et on arrive vers le sud de l'île. C'est différent, c'est très différent.
Alors, le sud est encore complètement différent. Il fait beaucoup penser au grand désert australien du sud ou le sud-ouest des États-Unis. C'est une terre donc très sec, très rouge, avec des petits oasis verts là où passent les rivières. Et là, j'ai fait un truc bien, c'est-à-dire qu'en faisant du stop, m'ont ramassé un responsable kanak d'une exploitation forestière. Il y a un grand parc naturel dans le sud qui s'appelle le parc de la rivière bleue. Et ils m'ont gardé avec eux 3-4 jours. Et là, c'était la façon le mieux de découvrir tout ça, parce qu'on partait le matin en Toyota et on allait voir les animaux, les oiseaux, faire des repérages. Et il y a un grand barrage hydraulique qui s'appelle le barrage de Yaté, qui approvisionne tout Nouméa. Et alors moi, quand j'y étais, ils avaient vidé le barrage. Donc c'était, imaginez, un grand barrage vide de terre rouge avec des arbres, tous les arbres morts, secs. Et par endroits, ils appellent ça les forêts noyées. On voit juste les bouts des arbres qui survivent au dehors de l'eau, parce que c'est un barrage pas très profond, mais très très étendu, avec plein de ramifications. Et au milieu de ce désert rouge coule une très grosse rivière qui s'appelle la rivière bleue, qui est très bleue de par justement le contraste calcaire entre la roche de l'eau et les abords rouges de la terre. Et là, c'était fantastique de se baigner là-dedans et de remonter toute la rivière en marchant. Et c'était un truc que vous avez peut-être vu, il y a eu le raid gauloise qui s'était passé justement dans ce parc-là. Enfin, ils avaient traversé toute la Nouvelle-Calédonie, du nord au sud. Et bon, c'est très difficile, il n'y a aucune voie, aucun accès. Et moi, j'y étais donc en décembre 91. Et Jérôme, qui était le kanak, m'avait raconté qu'un mois avant, le raid gauloise était passé et qu'ils avaient eu beaucoup, beaucoup de mal. C'est très, très dur physiquement, il fait très chaud et ça n'arrête pas de monter. Il faut remonter des cascades en descendre. Et dans le sud, il y a une très grosse cascade qui s'appelle la cascade de Sainte-Madeleine. Et vous imaginez, ce n'est pas ces cascades, vous savez, qui arrivent du haut. C'est le paysage est plat, désert, et tout à coup, la cascade pique. C'est-à-dire, vous ne la voyez pas, vous ne la voyez que quand vous êtes au-dessus, parce qu'elle tombe à vos pieds. Et il y a des cassures comme ça dans le paysage, très, très beau. Et tout au sud, à Goro, il y a une très très grosse cascade. Quand j'y étais, elle était pratiquement à sec. Donc on a pu toute la remonter en marchant en moitié les pieds dans l'eau. Et de là-haut, on avait une vue sur tout le lagon et sur tout le récif, là où viennent se casser les eaux, avec un bruit. Plus on monte, plus on a le bruit constant en fait, de cette mer qui se casse sur les coraux au loin. Et c'était très, 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 très beau.
Oui, j'imagine.
J'ai bien envie d'y retourner.
Ah, bah écoute, j'espère qu'on donnera envie aussi à d'autres gens d'y aller pour des bonnes raisons, hein, si possible. Pas pour aller s'y faire uniquement du fric. Et il faut absolument aller faire un tour à Ouvéa. On
et
peut pas faire
justement,
autrement.
Oui, ces Kana qui étaient responsables de la rivière bleue venaient d'une tribu d'Ouvéa et m'ont dit, écoute, Sandrine, la Nouvelle-Calédonie, bon, c'est très beau, c'est un pays fantastique, mais il faut que tu ailles Ouvéa, une petite perle dont tu estimes même pas la comme c'est grandiose, comme c'est beau. Et ils m'ont donc invité dans leur tribu qui se trouvait à Ouvéa. Et je suis donc partie là-bas en avion, un petit coucou d'Air Calédonia pour arriver sur une sorte de petite piste d'atterrissage à Ouvéa. Et alors donc Ouvéa, ça fait partie des trois îles Loyauté qui se trouvent au large, à peu près à 100 km au large des côtes. Et quand on arrive là-bas, alors ça, c'est vrai que ça a été tout de suite un petit paradis. Il faut imaginer une terre très, très étirée sur à peu près 40 km de long et 4-5 km de large. Et c'est ce qu'on appelle un lagon demi-fermé, c'est-à-dire que ça n'a pas les inconvénients du lagon fermé. Il n'y a pas d'eau, il y a du corail. C'est la forme est en demi-cercle et il y a des petites îles, des miettes de petites îles qui viennent fermer le lagon. Donc en fait, à l'intérieur du lagon, vous êtes comme en pleine mer. Donc sur la côte ouest, sur la côte ouest, une très grande bande de sable blanc de 35 km. À perte de vue
la plage
vraiment la plage comme on n'ose même pas l'arriver.
Les cocotiers
les flamboyants à nouveau, les hibiscus, et sur l'autre côté que des falaises là où ils vont pêcher les langoustes qui sont donc dans les rochers. Et côté lagon, vous nagez, les gros poissons vous passent entre les pieds, il y a qu'à tendre la perche pour que les poissons viennent mordre sans aucun problème. Alors c'était, pour moi, j'osais pas rêver ça, et c'était très très complètement fantastique. Donc j'ai vécu là pendant 15 jours avec donc une tribu qui était au centre de l'île, qui s'appelle Fayaway. Alors ça a été connu puisqu'il y a eu les premiers gendarmes qui ont été séquestrés, c'était les gendarmes de Fayaway. On abordera peut-être le problème de la guerre un peu plus tard.
Tout
on va
suite
d'abord,
derrière, ouais.
On va continuer de rêver
on
un peu.
On reste un peu au paradis encore.
On y reste. Et donc là, j'ai vécu d'une façon très traditionnelle, puisque sur l'île d'Ouvéa, c'est 1800 personnes qui vivent encore d'une façon très, très traditionnelle. Alors c'est un système donc de clans. Ils ont une sorte de relation de famille qui n'est pas la même famille que nous, c'est par les branches maternelles. Enfin, vivent plusieurs familles dans différentes huttes triangulaires avec par terre. Ils ramassent une sorte de petits coquillages rose et blanc qui vous tapissent, sur lesquels on met une natte. Moi, je dormais là-dessus. Et pour toute garde-robe, tout ce qu'ils ont, c'est un fil avec deux shorts dessus, un lit, donc une natte, et au fond, une sorte de cuisine. C'est un gros bidon où il y a un feu constant pour faire réchauffer sur des braises les plats. Et là où on nettoie la vaisselle, c'était sous un grand parapet qui permettait donc de protéger, d'avoir de l'ombre au milieu de cette organisation. Et c'était là où on mangeait et où il y avait la vie collective. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Ouvéa, ce qui fait que les plages sont si belles, c'est que ce sont des îles sans eau. Donc il n'y a pas de rivière, donc ils ne vivent que par une récolte d'eau de pluie, par des systèmes de grandes tôles où les pluies viennent se récolter et tombent dans des citernes. Et il faut donc faire très très attention à l'eau. Mais le corollaire, c'est que les plages sont donc de très beaux sables très blancs, sans feuilles, sans dépôts, puisque ce sont souvent les rivières qui viennent amener les détritus des forêts. Donc là, c'est vraiment une eau très bleue, très verte, une plage de sable très blanc.
Mais pas grand-chose à boire, il faut faire très attention.
Il faut faire attention.
Donc à l'eau. Malheureusement, on va quitter un petit peu le paradis pour évoquer les événements d'Ouvéa, la grotte d'Ouvéa, tout ça. Est-ce qu'il y a des séquelles? Est-ce qu'on t'en a parlé?
Beaucoup. On m'en parle beaucoup. Les gens sont encore restés très, très marqués.
Pour eux, ça a été la guerre.
Ils ont vécu ça comme une guerre civile, puisque donc c'était en 86, en 87. Les Kanaks avaient donc séquestré quelques gendarmes de différentes brigades pour demander donc l'indépendance, enfin au moins un semblant d'indépendance. Et l'apothéose a donc été avec la séquestration dans la grotte de Gossana. Et donc c'était Chirac qui avait envoyé le GIGN pour les calmer. Et puis, alors ce qui était très drôle, c'est qu'il me racontait, c'était la guerre. Il y avait les hélicoptères qui survolaient au-dessus des cocotiers. Il y avait l'armée qui entrait chez les gens en demandant, en fouillant pour trouver des armes, en incitant à la délation pour savoir qui avait séquestré les gendarmes qui étaient dans le groupement indépendantiste. Enfin, il y avait tout ce mouvement-là. C'était état d'urgence. On sortait pas le soir après 5 heures. C'était les flics partout. Pratiquement autant. Ils sont 1800 sur cette île. Il y avait pas loin de 1000 militaires sur l'île au même moment. Donc pour eux, c'était quand même un gros choc. Après, la version qu'ils en donnent, eux, des faits, c'est que bon, l'hécatombe finale avec la mort de 20 Kanaks dans cette grotte, ils la trouvent tous injuste, étant donné qu'ils avaient annoncé la libération des otages des gendarmes, et que malgré cette annonce-là, l'ordre a été donné par Bernard Ponce de massacrer pour leur fermer la gueule. Quoi. Et alors ça, ils le vivent très très mal. D'ailleurs, cette grotte, moi, j'ai voulu y aller. Et les gens de la tribu m'avaient dit « Mais non, Sandrine, on n'a jamais été, il ne faut pas y aller, c'est pas bien. » Et après, en discutant, on m'a dit « Il faut voir avec le chef de la tribu qui est là-bas. » Et le chef de la tribu m'a dit que maintenant, étant donné le souvenir pesant que ça avait et tout, il ne préférait pas. Et que c'était quand même 2-3 heures de marche de la route, quoi. Un lieu perdu, secret. Et ils ont tous enterré ces 20 Kanaks sur le bord de la plage au nord de Fayaway. Il y a une très grande tombe commune, avec les toujours fleuries, avec les portraits des Kanaks. Et juste en face de cette tombe-là, il y a Djibaou et Yewene Yewene qui ont été aussi tués un an après les accords de Matignon. Par visiblement un fou. Enfin, localement, les gens, c'était plutôt des affaires de famille plutôt que des affaires liées à l'histoire de l'indépendance. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant, c'est qu'eux sont satisfaits de la tournure des événements, pensent que le plan Rocard a permis de désengager tout ce qui traînait de
mauvais. Ça a dépassionné, en tout cas, ça a enlevé l'huile du feu, quoi.
Voilà, et ils attendent beaucoup de choses. Donc en 1998, il y aura le référendum en Nouvelle-Calédonie, et c'est eux qui voteront ou pas pour leur autodétermination.
Souvenirs d'enfance, en France, violence, manque d'indulgence par les différences que j'aime. Café léger, au lait mélangé, séparé petit enfant. Je connais ce sentiment de solitude et d'isolement.
J'espère qu'on aura donné envie à certains d'avoir le courage d'aller dans ces îles, parce qu'en fait, finalement, ça se fait très bien et c'est pas très touristique. Donc ceux qui veulent encore un peu d'aventure et qui aiment bien, ma foi, l'eau chaude et les belles cartes postales, et ben c'est possible, on peut y aller, on peut rentrer dans la carte postale. Alors, une petite fiche pratique, là, quelques renseignements.
Alors le plus simple, c'est avec Air France qui dessert Nouméa deux fois par semaine. Alors c'est quand même un petit peu cher. Je sais que pendant les périodes creuses, pour 8900 francs, vous pouvez faire un aller-retour. Mais sinon, il faut compter entre 10 et 12 000 francs. C'est quand même à l'autre bout du monde.
Alors je peux me permettre une petite parenthèse. Pour le même prix, si vous avez un peu de temps, vous pouvez vous faire un tour du monde et passer par ce que tu as fait.
Oui, c'est ça, par Nouméa. Donc on n'a pas besoin de visa pour nous, les Français. Alors c'est vrai qu'il ne faut pas y aller avec l'idée mon petit hôtel, mes petits bungalows et tout est organisé pour moi. Il y a bien un club Méditerranée, mais qui est proportionnellement beaucoup plus cher que dans n'importe quel autre club. Donc ça ne vaut pas très le coup. Je pense qu'effectivement, il faut y aller en vivant un peu d'une façon pas trop confortable. Il existe bien des gîtes. de part et d'autre sur l'île, mais là encore, ça fonctionne quand ça veut. C'est-à-dire, vous avez envie d'y aller, on vous dit sur un guide que c'est ouvert, et puis vous arrivez là-bas, ils ont décidé de pour ouvrir pour quelques jours parce qu'ils veulent faire autre chose. Donc, c'est pas trop fiable.
Voilà, il vaut mieux prévoir donc de dormir sur les plages et de se débrouiller. Système D, d'aller chez l'habitant, c'est très possible. Tu l'as fait, une femme seule l'a fait. Donc c'est
ou possible. Avec une tente, si vous voulez vraiment être tranquille, autonome, aucun problème. La vie là-bas est quand même assez chère, sauf la baguette et le riz qui valent à peu près le prix qu'on le paye en France. Mais sinon, donc à l'auberge de jeunesse, c'était 1000 francs pacifiques par nuit, c'est donc 50 francs. Et le moindre hôtel de classe normale, il faut compter pratiquement 250 francs à 300 francs par nuit. Et même le poisson ou la viande, c'est plus cher qu'en France. Et tout ce qui est importé de France est pratiquement le double. En termes de prix, ils ont une taxe importante, donc c'est ça nous qui douillons. Et tant que c'est cher comme ça, le tourisme ne se développera pas aussi. Donc
un certain tourisme.
Après, une fois que vous êtes en Nouvelle-Calédonie sur la Grande Terre, pour aller sur les îles, il y a des avions, il y a même des bateaux une fois tous les 15 jours. Il ne faut pas trop être pressé là-bas parce que
Il y a des moyens de se débrouiller, de rencontrer des gens qui effectivement vous emmènent ou à pas cher.
Moi j'ai rencontré des gens qui m'ont même emmené sur leur bateau pour aller pêcher le dimanche. Tout le monde a un petit bateau pour aller pêcher, c'est ce que vous avez de mieux à faire là-bas. Le stop marche très bien, il n'y a pas de train et il y a quelques bus, et les voitures de location sont très chères.
Voilà, tout est très cher, mais il y a moyen de se débrouiller en dehors des sentiers battus. Un grand décalage horaire quand même.
Oui, 12 heures. Je ne sais pas, quand il est 7 heures le soir en France, là-bas c'est 7 heures le lendemain matin.
Ah oui, complètement de l'autre côté. On est vraiment de l'autre côté de la Terre.
C'est vrai.
Il faut le savoir. Si vous voulez,
mais on n'a pas la tête en bas, les pieds en
haut. Voilà, j'allais le dire, mais bon. Mais en fait, c'est une façon de se mettre quand même les pieds en l'air, hein, cette histoire-là. Et bon, on a fait le tour, je crois, des petits détails. Il n'y a pas de vaccination particulière, de paludisme, de choses comme ça. Il n'y a rien du tout là-bas. Hein.
Non, non.
Le paradis.
C'est le paradis. Et c'est une terre, on a envie d'y retourner.
Eh bien, j'espère que tu y retourneras, Sandrine. Et puis, moi, j'ai très, très envie d'y aller également. On va terminer cette émission avec un chant kanak de Lifou, qui est donc une autre petite île.
Juste à côté d'Ouvéa.
Makani sinedi inia utipi twaulu migeda matiku chate amini ila asiani nani niti pikufi sihami kai.
Matitonia te de pinoite daina pane. Matitonia te de pinoite daina pane. Matitonia te de pinoite daina pane.
Ton futur a des ailes, mais ne sait pas voler. Ton présent est absent. C'est trop éclaté sur le goudron des routes. Tu te lèves et tu doutes, ton seul ami fidèle. Eh bien, c'est ton passé.
Matitoni a dit depuis le loïc et d'un appâné. Matitoni a dit depuis le loïc et d'un appâné. Matitoni a dit depuis le loïc et d'un appâné. Matitoni a te de pinoloi te dai na pa.
Matitonia ti de pinoloiti de na pane. 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 Matitonia.
Micro ouvert.
Tous les vendredis à 18h15, soyez notre invité. Téléphone 65 49 29 94.
C'était un reportage de Sandrine Mercier diffusé sur Radio Saint-Afrique en 1993. Merci Gilles pour avoir apporté ta participation au fouillage dans les bandes poussiéreuses, comme tu disais. Ça prend toujours énormément de temps.
C'est un plaisir de faire remarcher ces magnétophones Revox en 19 centimètres secondes
qui commencent à faire des petits bruits qui ne devaient pas exister à l'époque, je pense, quand on rembobine notamment.
J'ai été agréablement surpris. Les bandes ont été bien conservées. Vous aurez d'autres archives par la suite, provenant donc de ces années 90 qui avaient été riches en émotions et en reportages.
On en a pour un moment, effectivement. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté et au mois prochain.
Vous êtes très nombreux à vous intéresser à l'histoire.